Le journal est présenté par Timur Özturk.
Bonjour à tous. Une entreprise privée américaine devrait-elle pouvoir censurer le président des États-Unis? La fermeture définitive du compte Twitter de Donald Trump par le réseau social hier provoque le débat. Après l'intrusion de manifestants pro-Trump il y a 4 jours au Capitole à Washington, Twitter dit en somme ne plus vouloir être complice des appels à la violence du président sortant. La plateforme assume sa capacité à censurer. Mais selon Jean-Éric Brana, docteur en civilisation américaine et maître de conférence à l'université Paris 2. Cette décision questionne surtout l'utilisation systématique de ce réseau privé par un président.
Twitter donne une explication. Il y avait des risques parce qu'on entend parler d'une manifestation armée le 17 janvier à Washington et que Twitter ne veut pas être associé à cette manifestation tout simplement parce qu'ils peuvent être poursuivis par les lois américaines. Donc c'est la réponse qu'il donne maintenant. Plus globalement, il faut aussi se poser la question de la parole présidentielle qui passe par Twitter aux États-Unis principalement, puisqu'il utilise son compte plutôt qu'un compte POTUS ou n'importe quel autre moyen pour s'adresser aux Américains. Et donc, il se mettait lui-même à la merci d'une société privée. Et c'est aussi une question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est pas lui qui fait une faute en tant que président en se mettant à ce point-là sous la domination des règles que lui-même n'a pas édictées et qu'il ne peut pas contrôler en tant que président et que le Congrès ne contrôle pas non plus?
Et Jean-Éric Brana, joint par Thomas Larabie. En France, des mesures difficiles mais nécessaires contre le coronavirus, disait hier le Premier ministre Jean Castex. 8 départements s'ajoutent ce soir au territoire déjà concerné par le couvre-feu avancé à 18h. Il s'agit du Cher, de l'Allier, de la Côte d'Or, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ainsi que du Vaucluse, des Alpes de Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône. Drôme et Var les rejoindront mardi soir. Un arrêt de travail en quelques clics. Ce service en ligne ouvre aujourd'hui pour les malades du Covid-19 et les cas contacts. Il avait été annoncé jeudi soir par le Premier ministre. Arrêt obtenu sur simple déclaration. Pas de jour de carence, c'est-à-dire pas de journée non payée. Mais certains garde-fous sont posés, Anne-Laure Jumet.
L'indemnisation ne sera pas automatique. Les personnes présentant des symptômes évocateurs du Covid devront, au moment de leur déclaration sur ce nouveau site, s'engager à réaliser un test dans les 2 jours. À l'issue de cette étape, on leur communiquera un document leur permettant de justifier leur absence auprès de l'employeur. Mais l'arrêt de travail ne sera définitivement validé qu'une fois la date de résultat du test enregistrée sur le site. Et quand le résultat sera disponible, il faudra le signaler toujours sur cette plateforme. Et là, il y a 2 cas de figure. Soit le test est négatif, l'assurance maladie verse alors les indemnités journalières correspondantes à la période d'absence, 100 jours de carence donc, et le salarié ou l'agent de la fonction publique reprend le travail. Soit le test est positif, et là, l'arrêt maladie est prolongé pour garantir un isolement de 7 jours à compter des premiers symptômes. L'assurance maladie prévient déjà qu'elle assurera des contrôles réguliers pour éviter les abus. Enfin, pour les personnes identifiées comme cas contact, seules celles dont le test PCR est positif et qui ne peuvent pas télétravailler entreront dans le nouveau dispositif. De quoi rassurer les employeurs, la CPME mettait en garde contre un dispositif qui serait de nature à entraîner une très forte augmentation des arrêts maladie et ouvrirait, disait-elle, la porte à un absentéisme incontrôlé, risquant de désorganiser les entreprises.
Et l'adresse du site est declare.amélie.fr. Si la France devrait passer le cap symbolique des 100 000 personnes vaccinées ce week-end, selon le ministre de la Santé Olivier Véran, certains pays attendent encore de démarrer une campagne de vaccination, comme l'Ukraine, qui peine à se fournir rapidement en vaccins, et où les pro-russes à Kiev, sur fond de guerre entre les deux pays, font pression pour que l'Ukraine accepte de vacciner sa population avec le sérum du voisin russe Sputnik V. Stéphane Sihoan.
L'Ukraine vient de dépasser le cap des 20 000 morts et le président Zelensky a annoncé le 30 décembre que le gouvernement avait commandé 1,8 million de doses du vaccin chinois Sinovac et que l'Ukraine bénéficierait du programme COVAX, un mécanisme mondial d'achat groupé des vaccins. Seulement ces derniers jours, le laboratoire BioNTech, dans la deuxième ville du pays, Kharkiv, a demandé au gouvernement de tester, produire et distribuer en Ukraine le vaccin Sputnik V qui a été conçu en Russie. Le gouvernement fait profil bas, mais imaginez alors le dilemme psychologique pour les Ukrainiens, devoir s'inoculer un vaccin produit par un État qui a lui-même introduit en Ukraine le virus de la guerre, qui a fait près de 15 000 morts à ce jour. L'affaire ne doit absolument rien au hasard. Le laboratoire BioNTech est soutenu par Viktor Medvedchuk, le chef de l'opposition pro-russe en Ukraine, un intime de Vladimir Poutine. Le même Medvedchuk a racheté depuis 3 ans un grand nombre de télévisions qui martèlent aux téléspectateurs que l'Ukraine doit doit adopter en toute urgence le vaccin russe. En quelque sorte, la guerre hybride du Kremlin qui se prolonge sur le terrain médical. Volodymyr Zelensky privilégie pour le moment un approvisionnement occidental, mais les Occidentaux ne se pressent pas pour fournir des doses à l'Ukraine, où face à l'urgence sanitaire, la question du vaccin Sputnik pourrait bientôt devenir un poison politique.
Les explications de Stéphane Sihoan depuis Kiev. L'avion disparu hier au large de Jakarta a émis un signal depuis la mer. Un bâtiment de la marine indonésienne l'a capté et des plongeurs ont été envoyés. Des débris d'avions et des corps ont aussi été retrouvés. Le Boeing 737 d'une compagnie indonésienne transportait 62 personnes. La tempête Filomena a recouvert Madrid d'un épais manteau blanc et provoqué la paralysie de la capitale espagnole. 3 personnes sont mortes. Et après la neige, c'est le gel qui inquiète les autorités. Marie-Hélène Ballestero.
À Madrid, les chutes de neige vont laisser place dans les prochaines heures à une vague de froid inédite depuis 1945, d'où l'inquiétude du maire Martínez Almeida.
C'est très compliqué ici, je recommande à tous de rester chez eux. On espère que ça ira mieux rapidement, mais il va falloir beaucoup de patience. Ça va être difficile de retrouver une certaine normalité à Madrid avant la fin de la semaine prochaine.
Le retour à la normale prendra encore plusieurs jours à Madrid, notamment en ce qui concerne le réseau routier, les bus, les RER, le trafic ferroviaire et aérien. L'aéroport de Barajas reste fermé depuis hier. Nicolas, jeune étudiant en thèse, est venu passer quelques jours à Madrid avec sa fiancée. Il devait rentrer aujourd'hui à Paris.
Au début, c'était plutôt sympathique, la neige. Mais ensuite, quand on a vu ce matin que la neige nous arrivait à peu près aux genoux, on a eu peur pour nos vols. Et cet après-midi, nos vols ont été annulés.
Si tout va bien, Nicolas prendra un vol demain. La situation est plus compliquée pour sa copine Paola, qui doit rentrer en République tchèque. Elle va devoir faire 2 escales à Paris et à Vienne.
Bien, la situation est assez stressante. On a passé la journée à contacter les compagnies aériennes pour connaître la situation à l'aéroport de Balaras et sur les routes qui relient le centre-ville à l'aéroport.
La situation reste très chaotique dans la capitale, alors que les températures pourraient chuter jusqu'à moins 11 degrés dans la nuit de lundi à mardi.
Marie-Hélène Ballestero. Enfin, notre maison de la radio change de nom. Elle devient la maison de la radio et de la musique, annonce ce matin la présidente de Radio France, Sybille Veil, dans un communiqué. La météo aujourd'hui annonce un temps froid et sec sur une moitié est de la France. Les maximales varieront entre 0 et 4 degrés en général.